Chapitre 34. Jugement. Dans un monde de communication universelle et instantanée, il était très difficile de garder un secret. Poole savait donc que cette affaire exigeait une discussion immédiate en face à face. En maugréant, les membres du Comité Europe se retrouvèrent à son appartement. Ils étaient 7, chiffre porte-bonheur, suggéré de toute évidence par les phases de la Lune qui avaient toujours fasciné les hommes. Ils rencontraient 3 d'entre eux pour la première fois, mais ils les connaissaient tous parfaitement à un point qui eût été inconcevable aux époques précédant la coiffe de pensée. Madame la présidente O'Connor, messieurs et mesdames les membres du comité, je voudrais vous dire quelques mots, quelques-uns seulement, je vous le promets, avant que vous réceptionniez ce message que j'ai reçu d'Europe. Et c'est quelque chose que je préfère faire verbalement. Pour moi, c'est plus naturel. J'ai peur de ne jamais être très à l'aise avec le transfert mental direct. Comme vous le savez tous, Dave Bowman et Hal ont été emmagasinés en tant qu'émulation à l'intérieur du monolithe d'Europe. Apparemment, celui-ci ne désactive jamais un outil qui a montré une fois son efficacité et de temps à autre, il active Alman pour surveiller nos affaires quand elle commence à l'inquiéter, ce qui, à mon avis, a dû être le cas avec mon arrivée là-bas, à moins que je ne me montre trop présomptueux. Mais Alman n'est pas qu'un outil passif. Sa composante Dave a conservé quelque chose de son origine humaine, jusqu'à des émotions. Et parce que nous avons été formés ensemble, que pendant des années nous avons pratiquement tout partagé, il a, semble-t-il, trouvé plus facile de s'adresser à moi qu'à d'autres. J'aimerais me dire que ça lui fait également plaisir, mais peut-être le mot est-il trop fort. Il est aussi curieux, voire inquisiteur, et peut-être n'a-t-il pas apprécié la façon dont il avait été ramassé, tel un spécimen de la nature. Pourtant, il est probable que c'est ainsi que nous apparaissons aux yeux de l'intelligence qui a créé le monolithe. Et où se trouve cette intelligence à présent? Selon toute apparence, Alman connaît la réponse et elle est terrifiante. Comme nous l'avons toujours soupçonné, le monolithe appartient à une sorte de réseau galactique. Et le nœud le plus proche, le maître du monolithe, ou son supérieur immédiat, se tient à 450 années-lumière. Bien trop près. Cela signifie que le rapport sur nous et nos affaires qui a été transmis au début du XXIe siècle a été reçu il y a environ 500 ans. Si le, disons, le superviseur du monolithe a répondu immédiatement, ses instructions devraient lui parvenir en ce moment. Et c'est exactement ce qui semble se passer. Au cours des derniers jours, le monolithe a reçu un flot continuel de messages et mis au point de nouveaux programmes, probablement en accord avec ces messages. Malheureusement, Alman ne peut se livrer qu'à des conjectures à propos de la nature de ses instructions. Comme vous vous en rendrez compte lorsque vous téléréceptionnerez cette tablette, il a un accès limité à la plupart des circuits et des banques de données du monolithe, et il arrive même à nouer une sorte de dialogue avec lui, si l'on peut employer un terme pareil, car il y faut 2 personnes. Je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée qu'en dépit de tous ses pouvoirs, le monolithe ne possède pas de conscience, ne sait même pas qu'il existe. Alman a retourné le problème dans tous les sens depuis 1000 ans. Et il est parvenu à des conclusions identiques à celles de la plupart d'entre nous. Mais ces conclusions à lui pèsent d'un poids plus grand parce qu'elles procèdent d'une connaissance de l'intérieur. Ce qui a pris la peine de nous créer, ou du moins de remanier les esprits et les gènes de nos ancêtres, est en train de décider ce qu'il va faire à présent. Et Alman est pessimiste. Non, c'est exagéré. Disons qu'il ne donne pas cher de nos chances, mais qu'il est devenu un observateur trop détaché pour s'inquiéter outre mesure. L'avenir, la survie de l'espèce humaine, n'est pour lui qu'un problème intéressant parmi d'autres. Mais il est disposé à nous aider. À la surprise de son auditoire attentif, Poole alors s'interrompit. C'est curieux. Je viens d'avoir un souvenir sidérant. Je suis certain qu'il explique ce qui est en train de se passer. Je vous demande encore un peu de patience. Un jour, quelques semaines avant le lancement, Dave et moi nous promenions sur la plage à Cap Canaveral, lorsque nous avons aperçu une grosse bestiole sur le sable. Comme cela arrive souvent, elle était sur le dos et agitait frénétiquement les pattes pour tenter de se remettre à l'endroit. Je n'en ai pas fait cas parce que nous étions lancés dans une discussion technique assez compliquée, mais Dave, lui, a fait un pas de côté et l'a remise doucement sur ses pattes du bout de sa chaussure. Comme elle s'envolait, j'ai dit « Tu es sûr que c'était une bonne idée? Maintenant, elle va dévorer les précieux chrysanthèmes de quelqu'un. » Et il a répondu « Tu as peut-être raison, mais j'aimerais lui accorder le bénéfice du doute. » Toutes mes excuses. J'avais promis de ne prononcer que quelques mots. Mais je suis heureux de m'être rappelé cet incident. Il remet, je crois, le message de Hallmann à sa juste place. Il accorde à l'espèce humaine le bénéfice du doute. Et maintenant, s'il vous plaît, vérifiez vos coiffes de pensée. C'est un enregistrement de haute densité. Extrémité de la bande UV, canal 110. Installez-vous confortablement, mais assurez-vous que vous êtes en ligne de vue. C'est parti.